Le monitoring est un outil fondamental et l'un des grands piliers de l'observabilité, sans lequel nous serions aveugles sur l'état de santé et les performances de nos applications. Or, la façon dont nous développons et exécutons ces dernières a énormément changé ces dernières années. Distribués, dynamiques, en microservices ou encore placés dans des containers, les scénarios sont multiples et le plus souvent complexes. C'est dans ce contexte que Prometheus a su se différencier de ses compétiteurs. Il est simple à déployer, à maintenir et à utiliser, il collecte les métriques des applications sans impacter leur performance, et il est parfaitement adapté pour le monitoring des applications et des infrastructures cloud natives. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julien Pivoteau. Julien est développeur open source pour Inuit et l'un des contributeurs du projet Prometheus. Avec lui, nous allons découvrir comment Prometheus a su changer la donne pour devenir l'acteur open source incontournable et même le standard des outils de monitoring du marché. L'IT a profondément changé ces dernières années, que ce soit par l'arrivée du cloud, des conteneurs et de Docker, ou plus récemment, de Kubernetes. Tirer le meilleur parti de ces technologies et des méthodologies qui les sous-tendent, comme DevOps ou GitOps, est un nouveau défi à relever. Les équipes de Data Essential sont là pour vous accompagner à gérer cette transformation. Que ce soit techniquement ou sur les aspects culturels, Data Essential vous propose un cadre, des formations et un support humain de qualité. Abordez les nouvelles technologies sans appréhension avec Data Essential, votre partenaire dans votre transformation IT. Merci à Data Essential de contribuer à donner vie à ce podcast et retrouvez Data Essential sur www.data-essential.com. Julien, bienvenue dans ce podcast.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on est là pour parler un peu de Prometheus. Alors c'est un vaste sujet. On va pas pouvoir tout aborder non plus. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a changé dans nos infrastructures qui a nécessité l'arrivée d'un nouvel outil de monitoring ?
Eh bien, au fil des années, on se rend compte que dans les infrastructures, qu'est-ce qu'on constate ? Ben, il y a de plus en plus de machines. Donc, on est passé des grosses machines qui hébergeaient plein de services à des machines virtuelles spécialisées. Et puis, on est passé à des conteneurs et on passe comme ça à des unités toujours plus petites. Donc, on a de plus en plus de choses à monitorer. On a aussi des infrastructures, on remarque, elles changent très, très vite. Donc, on a des conteneurs qui arrivent tout le temps, qui s'en vont, des machines virtuelles qui sont créées à la volée, qui disparaissent. Et tous ces changements-là font que les outils de monitoring qu'on avait auparavant n'étaient plus vraiment adaptés à pouvoir justement réagir à tous ces micro-changements dans notre infrastructure. Et on s'est également aussi rendu compte qu'il n'est pas toujours évident de juste, avec juste une couleur ou juste un statut général, dire voilà, ça marche ou ça marche pas. Donc tout ça ensemble fait que, en effet, ça fait maintenant plusieurs années que les outils de monitoring évoluent et surtout qu'on en voit des nouveaux arriver.
Il y a aussi le fait peut-être que, est-ce que ça joue ? Justement, tu dis qu'on a des unités de plus en plus petites. Pour moi, le monitoring classique, on va dire, s'appuyait beaucoup sur des agents. J'imagine mal installer un agent dans un container, ça devient plus délicat. Et que donc, justement, ce modèle-là avait atteint, d'une certaine manière, sa limite aussi.
Oui, alors c'est vrai que le modèle d'agent à côté de chacune des choses qu'on monitorait avait atteint sa limite, oui et non, parce que avec ces petites unités, on pourrait très bien aussi continuer à déployer des agents parce que tout ce qui est automatisation a également évolué. Là où ça a commencé à vraiment montrer ses limites, c'est pouvoir dire on a une application, elle n'est plus là. Est-ce que c'est normal qu'elle ne soit plus là? Est-ce qu'on est capable de retirer l'agent ou d'arrêter de monitorer ce qui n'est plus là, quoi? Et c'est là où l'approche vraiment, on va plutôt que avoir une configuration qui est statique pour une configuration qui évolue et qui connaît l'état de l'infrastructure, c'est vraiment un point important et capital dans les nouveaux outils de monitoring. C'est-à-dire que quand une application disparaît ou apparaît, on va pas forcément venir installer un nouvel agent. On va justement pouvoir dire voilà, l'application elle est là maintenant, je la monitore, quoi. Et quand elle n'est plus là, évidemment, j'arrête de la monitorer. Et c'est tout à fait normal vu qu'il y a quelque part une source de vérité qui va me dire, voilà, l'application-là n'est plus déployée.
Comment on s'y prend justement pour faire face à cet environnement dynamique où les choses apparaissent et disparaissent de manière très volatile?
Alors, il y a deux éléments. Il y a tout d'abord, au niveau purement technique, il y a toute une série de mécanismes. En général, quand on a une infrastructure qui est dynamique, on va avoir un élément central, un peu comme une espèce de CMDB qui va savoir, voilà, le service, il tourne maintenant ou il ne tourne plus, par exemple, Kubernetes, par exemple, Consul pour faire du service discovery, et plein d'autres éléments. Ceux qui en font du Ansible ou du Puppet peuvent également utiliser ces outils-là. Et ces outils-là peuvent directement dire au monitoring, voilà, j'ai rajouté une machine virtuelle, j'ai rajouté un service et directement l'enlever. La deuxième approche, c'est de se dire que plutôt que d'essayer de monitorer chacun des éléments techniques, on va également penser à regarder ce qui se passe au niveau du business. Parce que s'il y a 10, 20 ou 100 pods, les utilisateurs, eux, attaquent toujours le même point d'entrée, ils attaquent toujours de la même manière l'infrastructure et on est capable de détecter, voilà, les utilisateurs maintenant utilisent l'application et ils sont heureux en l'utilisant. Et ça, c'est le deuxième point, c'est-à-dire on va pas uniquement regarder ces petits éléments techniques qui, eux, peuvent changer au fil des développeurs, au fil des mois, etc. Aussi regarder, par exemple, voilà, au niveau de mes front-end, je vois mon temps de réponse général, tout microservice confondu, est d'autant. Et mon taux d'erreur également est élevé ou peu élevé.
D'accord, ça suppose donc que ces métriques, elles sont capturées de quelle manière alors?
Il y a plusieurs métriques différentes, mais par exemple, nous, ce qu'on aime bien regarder, c'est directement les points d'entrée. Et là, par exemple, il y a soit maintenant de plus en plus de points d'entrée qui peuvent elles-mêmes exposer des métriques. On pense aux points d'entrée comme trafic, comme achat proxy, etc., qui eux font déjà ce travail d'exposer des métriques Prometheus nativement. Et sinon, on peut aller lire dans les fichiers de log, on peut être assez créatif pour venir extraire les métriques de là où c'est nécessaire de les extraire. Les applications d'elles-mêmes, en général, maintenant, peuvent, dans un environnement où on a du monitoring Prometheus, facilement venir exposer leurs métriques avec un petit coup de pouce des développeurs.
Est-ce que tu peux justement expliquer de quelle manière on expose des métriques Prometheus et en quoi consistent ces métriques?
Oui, donc, alors, une métrique Prometheus, qu'est-ce que c'est d'abord? Une métrique Prometheus, c'est une ligne avec un nom de métrique et des labels qui vont permettre de catégoriser cette métrique. Et à ce nom de métrique et ces labels, par exemple, code de retour, requête HTTP, code de retour 500, on va avoir un nombre. Et ce nombre va représenter la métrique et va évoluer au fil du temps. Et la manière dont on présente ces métriques à Prometheus, c'est en exposant une simple page HTTP dans notre application que le serveur Prometheus va pouvoir venir récupérer à un intervalle assez élevé. Donc, on parle en général de 15 ou 30 secondes pour récupérer ces informations, pour ensuite les stocker dans sa mémoire, dans sa base de données en interne. Ça, c'est la manière dont on va exposer les métriques dans Prometheus, et c'est toujours Prometheus qui va venir chercher les métriques vers les différentes targets qu'on lui demande de monitorer.
Donc c'est une page web que l'application doit exposer.
Oui, donc c'est une page web, c'est du texte, c'est-à-dire que c'est assez simple à débugger ou même à regarder en local l'état des métriques que l'on a. Et Prometheus va venir juste récupérer ce qui est sur cette page web, cette page de texte. Ce qui veut dire également que quand Prometheus va venir monitorer une application, il ne va jamais savoir à l'avance les métriques qu'il va recevoir. C'est-à-dire que je ne dis pas à l'avance dans mon Prometheus, va chercher le taux de réponse à page, je lui dis, va rechercher ce qu'il y a derrière cet endpoint-là. Et derrière l'endpoint-là, ben, l'application est libre d'évoluer, de faire évoluer ses métriques, et Prometheus va juste récupérer l'ensemble des métriques qu'il va y trouver.
Du coup, quand tu as une application qui est distribuée, comment Prometheus va savoir que ces métriques-là correspondent au même front-end ou correspondent au même back-end?
Alors, donc, il faut savoir que quand les métriques sont exposées dans Prometheus, lui, on lui indique quand même, voilà, là, cette application-là, ça fait partie de ce cluster-là, de cette machine-là. Et donc, au moment où Prometheus va récupérer les métriques et les stocker en interne, il va faire ce qu'on appelle du relabeling, c'est-à-dire il va rajouter des labels en plus qui sont, eux, dans sa configuration. Donc, on peut dire à Prometheus, voilà, tu vas récupérer le port 8080 de cette machine-là, les métriques, et là, on va lui dire, tu me rajouteras le label HTTPD et cluster front-end ou bien zone DMZ. On peut rajouter comme ça des labels supplémentaires qui vont nous permettre de catégoriser après ça par front-end, par application, etc. Pour nous permettre après ça, évidemment, de faire des queries qui vont couvrir peut-être tous les processus d'une machine ou bien tous les processus d'un même cluster et ce genre de choses.
Donc, j'ai une application et je peux dire dans Prometheus, va chercher ce endpoint-là. Maintenant, si j'ai une application qui est, mettons, en microservice et en conteneur, et qu'elle est amenée à peut-être changer de temps en temps, comment je la fais découvrir, donc, dynamiquement?
Eh bien, ça va dépendre de la manière dont elle est déployée. Si elle est déployée dans un cluster Kubernetes, Prometheus peut se connecter à Kubernetes et Kubernetes va l'informer régulièrement des nouveaux pods qui apparaissent, des nouveaux conteneurs qui apparaissent, etc. Même chose si c'est dans Consul. Et si on est dans un système plus custom ou bien, par exemple, nous, on utilise Ansible. Eh bien, dans Ansible, on va simplement venir déposer sur le serveur Prometheus un fichier YAML. Prometheus va les scanner et va dire, voilà, maintenant, il y a une nouvelle application qui est arrivée, je vais aller récupérer ces métriques.
Est-ce que j'ai besoin donc de créer un fichier YAML pour dire ma source de vérité, elle est contenue dans Kubernetes? Ou alors c'est un fichier plus gros où je vais dire ma source de vérité, elle est entretenue par Kubernetes et mon application c'est XYZ?
Alors, ce qu'on va définir dans Prometheus, c'est d'abord, ce n'est pas une seule source, c'est plus on peut définir autant de sources de vérité qu'on le veut. Et ensuite, une fois que la source de vérité comme Kubernetes va donner les informations à Prometheus, elle va également donner des informations en plus. Par exemple, Prometheus va recevoir les labels qu'on a dans Kubernetes. Il va recevoir les tags qui sont dans Consul. Elle va recevoir des champs additionnels qu'on pourrait mettre dans des fichiers YAML qui vont permettre également à Prometheus de rajouter des labels dynamiques. Si on décide, si on veut par exemple définir dans les labels de Kubernetes certains labels Prometheus en plus qu'on veut dans notre target, aucun souci, on peut le faire. C'est une spécificité de Prometheus qui s'appelle le relabeling qui fait que oui, on reçoit de l'information, mais d'abord on peut la trier, on peut la filtrer et on peut ensuite réutiliser ces informations dans le cadre du stockage des métriques ou du comportement de Prometheus.
Si je te suis, j'ai une application XYZ. Ça, dans Prometheus, il sait que j'ai une application XYZ et il va pouvoir récupérer, par exemple, un tag V1 quand je l'ai déployé en V1. Si je la déploie en V2 ensuite, il peut récupérer ce tag, mais savoir que c'est toujours l'application XYZ.
Oui, alors attention que ce que tu parles ici, c'est plutôt quelque chose qu'on va résoudre au niveau des métriques elles-mêmes. C'est-à-dire que en général, les applications vont exposer une métrique de type information, par exemple build info ou des choses ainsi, qui vont contenir dans un tag leur version en fait. Donc la version d'une application en général sera plutôt contenue dans un tag que dans un label qui va persister à travers plusieurs releases différentes. Ce sera vraiment une seule métrique qui va contenir cette information-là de version. On va en général pas rajouter ça au niveau de l'application complète. Mais sinon, oui, si dans l'application, on lui donne le même nom dans Kubernetes et qu'il y a deux versions différentes, il n'y a pas de souci, Prometheus va pouvoir récupérer les deux. Quand la première disparaîtra, il aura la deuxième. Et dans le cadre d'une rolling release, tu pourras à un moment même monitorer les deux en même temps.
Pour créer cette page web sur laquelle on expose nos métriques, j'imagine qu'il faut instrumenter le code.
Oui, donc il faut instrumenter le code. Il faut savoir qu'au niveau du projet Prometheus, nous offrons quatre librairies officielles qui sont la librairie en Go, en Java, Scala, Python et Ruby, qui permettent d'instrumenter le code qu'on écrit avec Prometheus et qu'en plus de ça, on a plus d'une quinzaine de contributions de la communauté pour d'autres langages de programmation et de scripting qui vont permettre d'instrumenter toutes ces autres langages de programmation. Donc, il y a un support assez universel pour les métriques Prometheus à l'heure actuelle dans plein de langages différents qui vont justement aider les développeurs à correctement présenter les métriques à Prometheus et bien réagir à toutes les petites subtilités qu'il peut y avoir dans le format d'exposition de Prometheus.
L'intérêt que je voyais à instrumenter son code aussi, c'est que quand on instrumente le code, on ne fait pas que remonter les métriques de l'application, on peut aussi remonter des métriques business.
Oui, et ça de deux manières différentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des métriques business, parfois, qu'on va rajouter de manière artificielle. Donc, par exemple, une telle fonction, on va définir, on augmente un certain compteur. Mais également, on remarque également que de plus en plus de frameworks, je pense à Apache Camel en Java, à Micrometer, qui eux vont out of the box, entre guillemets, juste en activant une petite option, mettre des métriques Prometheus sur des routes, sur certains endpoints qu'on va présenter, et qui vont nous fournir des métriques business, entre guillemets, out of the box, où tout ce qui nous reste à faire, c'est de venir les documenter pour mettre les alertes dessus, mais ce sont bien des alertes qui vont représenter le business. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'on ne doit pas écrire forcément toutes les métriques soi-même, parce que de plus en plus de frameworks à l'heure actuelle permettent directement et très facilement de présenter ces métriques. De même, quand je parle des instrumentations du code, il n'y a pas que les métriques qu'on va écrire dedans qu'on va retrouver, parce que toute une série de métriques de base sur la mémoire, l'utilisation de CPU, des process, etc., vont également être automatiquement rajoutées en général par les instrumentations de base qu'on va pouvoir utiliser. Donc, c'est toute une série de métriques qui arrivent automatiquement, avec l'avantage que certaines d'entre elles vont être communes entre toutes les instrumentations. Par exemple, l'heure de démarrage d'un process va être la même métrique pour tous les processus différents, l'utilisation CPU également. Et ça permet de faire des queries très larges et très facilement sur n'importe quel process qui va être instrumenté avec des métriques natives Prometheus.
Si j'évoque un peu justement des edge cases, on va les appeler comme ça, donc des cas bordure. Alors, il y a deux cas que je vois. Typiquement, j'aimerais savoir comment ils sont résolus par Prometheus. C'est déjà, bah, si on a un job qu'on va exécuter qui a une certaine durée. Donc, un job, il va pas avoir la possibilité de présenter une page web pour que Prometheus vienne chercher des métriques parce que si ça vient juste avant que Prometheus vienne, il aura peut-être disparu.
Alors là, donc pour ce cas de figure-là de job, il y a plusieurs éléments. Nous utilisons par exemple dans mon infrastructure actuelle des job log stash, c'est-à-dire que le job log stash, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lancer, il va tourner pendant quelques minutes et puis il va rendre la main et va disparaître. Sur ce job-là, comme il dure quelques minutes, on a mis de l'instrumentation Prometheus en utilisant le log stash exporter, c'est-à-dire que quand il ne tourne pas, l'exporteur va dire voilà, le job ne tourne pas. Quand il tourne, on va avoir les informations sur l'exécution actuelle. Si jamais ça bloque, s'il y a quelque chose qui se passe mal, on aura une vision parce qu'on va chercher les informations toutes les 5-6 secondes sur cet exporteur-là spécifique. Ensuite, il y a des jobs trop courts. Dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle la push gateway, ce qui est un élément de Prometheus qui permet de pousser des métriques, justement prévues pour ces cas où les processus ne durent pas ou bien c'est juste des shell scripts. On peut pousser des métriques vers la push gateway. Ça, c'est dans le cas où on a des métriques plutôt de type de service. L'autre cas, c'est quand on a également la possibilité d'écrire des métriques dans un fichier et d'avoir un exporteur qui va venir lire ces fichiers et les exposer avec le timestamp du fichier, avec d'autres informations. Donc là, c'est encore une autre manière qui est locale à la machine de se dire, voilà, on a un job qui tourne, on écrit dans un fichier et l'exporteur, dans ce cas-ci, qui s'appelle le node exporteur, qui est l'exporteur pour les machines Linux et Unix. Cet exporteur-là va venir lire le fichier et présenter les métriques à Prometheus. Et là, on n'est plus dans un modèle de push gateway centralisé, mais local à la machine. Une dernière chose que je voudrais rajouter par rapport au node exporteur et qu'on utilise également, c'est que le node exporteur a aussi une connexion possible vers systemd. Et donc, si au lieu d'utiliser des crons, on utilise des timers systemd, et ben, ces timers-là, on peut voir leur état dans Prometheus, on peut voir la dernière fois qu'ils ont tourné, leur code de retour, etc., qui sont des informations qui sont en général assez utiles pour justement diagnostiquer si les batchs ont tourné, etc. Avec une combinaison de tout ça, donc on utilise notamment les métriques systemd parce qu'elles sont entre guillemets gratuites et très faciles à récupérer, il suffit d'activer l'option dans l'exporteur. On utilise ça pour monitorer toute une série de process batch et certains process en plus exposent des métriques soit en local, parce que c'est des spécifiques, on tourne ça sur toutes les machines, soit de manière centralisée.
C'est quoi exactement l'exporteur? Quelle est son utilité? Quelle est sa fonction?
Alors l'exporteur, ben, c'est pour tout ce qui ne supporte pas, tout ce qui n'est pas capable d'exporter des métriques Prometheus. Le noyau Linux, j'étais encore dans mon berceau, mais bon, jusque la version 2.4, il y avait peut-être un serveur HTTP dedans. Ils l'ont enlevé, donc malheureusement, on se retrouve à devoir rajouter un process en plus qui va pouvoir parler le langage de Prometheus. Un autre cas, ça va être une base de données MySQL. Elle ne permet pas naturellement d'ouvrir une page web avec des métriques dedans. Donc, on rajoute un exporteur à côté qui va d'un côté prendre les requêtes de Prometheus et de l'autre côté faire les queries qu'il faut dans MySQL pour renvoyer les données sur la page dont Prometheus a besoin. Donc, un exporteur, c'est un traducteur entre une réalité technique et Prometheus. C'est lui qui va faire la traduction des métriques en fonction de ce qui est réellement derrière dans la boîte qu'on veut monitorer.
Donc, n'importe qui est en mesure d'écrire son propre exporteur.
Oui, donc il y a seulement une dizaine, je pense, ou peut-être un peu plus d'exporteurs entre guillemets officiels maintenus par l'équipe de Prometheus entre guillemets first class. On parle de Monitor et Consul, MySQL, les serveurs Linux, etc. Et ensuite, il y a des dizaines et des dizaines d'exporteurs qui sont décrits par la communauté, qui permettent de monitorer toute une série de choses qui, naturellement, n'ont pas encore de support Prometheus natif. Et ça, c'est très important de se rendre compte que, au niveau de Prometheus, du projet Prometheus, nous ne faisons qu'une petite partie du travail, vu que derrière une communauté immense de développeurs qui participent, qui contribuent et qui nous apportent, qui font un écosystème qui est riche et qui permet vraiment d'aller exporter toute une série d'hardware, de software et d'autres choses directement avec Prometheus. Et en parallèle à ça, les exporteurs ne sont pas la seule manière évidemment de monitorer les choses parce qu'on constate également que de nombreuses applications maintenant nativement permettent d'exporter des métriques Prometheus et évidemment on s'en réjouit parce que chaque fois qu'on peut avoir un exporteur, on est assez content. Ça facilite énormément les déploiements de pouvoir directement parler aux applications en elles-mêmes. Et puis, un exporteur n'a pas toujours accès à tout. Si je vais monitorer la mémoire qu'un processus prend, ben, qui peut mieux le faire que le processus lui-même qui va venir regarder directement dans sa stack et dire voilà la mémoire que j'utilise vraiment, quoi.
Alors, des outils de monitoring, il y en a quand même pas mal. C'est quelque chose d'assez ancien que le monitoring. Donc, dès le moment où on a mis des systèmes, on a mis des systèmes pour monitorer les systèmes. Par rapport à un monitoring classique, voilà, je suis une entreprise et j'ai déjà un système de monitoring. Et on va me dire, bon, maintenant, faut switcher, faut utiliser autre chose. On a l'habitude de changer, régulièrement, mais qu'est-ce qui me dit que, je fais le bon choix en allant vers Prometheus?
Alors, Prometheus, d'abord, il n'est pas sorti du chapeau de quelqu'un un jour comme ça. Il a été construit avant d'être même publié sur des années d'expérience chez SoundCloud. Et même avant, c'est des anciens Googlers qui ont créé le logiciel basé sur leur expérience. Donc, c'est un outil qui a déjà vécu, qui maintenant est quand même maintenant déjà assez expérimenté, assez ancien, et qui de plus est tout à fait open source et fourni par la Cloud Native Compute Foundation, qui est en fait la même fondation que Kubernetes, que d'autres projets, qui garantit que le projet Prometheus est géré de manière saine, il est indépendant des sociétés commerciales au premier rang, donc il ne dépend pas directement de sociétés commerciales, qu'il est géré, qu'il est chapeauté par cette fondation. Et qui a toute une série de, entre guillemets, de contrôles derrière pour tout ce qui est l'accueil de la communauté, tout ce qui est l'accueil des contributions, etc. Et qui font dire justement, voilà, le projet Prometheus, on a les garanties de la CNCF quand on l'utilise. Et ça, c'est très important. Ce qui est aussi important, c'est de regarder les chiffres. Comme tout projet de la CNCF, il y a un dashboard qui est publié qui permet de regarder, voilà, l'évolution des contributions au projet Prometheus dans le temps. Et tout le monde peut constater que de un, ce n'est pas monopolisé par une seule compagnie, et de deux, que c'est grandissant. C'est-à-dire qu'il y a de l'attrait dans le produit, et il y a un écosystème qui vit, qui est vivant, et ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, quoi. Donc, ça, c'est très important également de comprendre que toutes ces données-là montrent bien que le projet, il est sain, et il est assez. On sent qu'il est là pour rester, quoi. Et l'adoption, elle est là. L'adoption tend de Prometheus en lui-même, mais il faut aussi savoir que Prometheus travaille à la standardisation et à l'écosystème en général. Donc, on a des projets également de standardisation, on en parlera peut-être, qui permettront justement de dire, voilà, j'investis dans Prometheus et toute une partie de toute façon de ce que je fais pourra être réutilisée avec d'autres outils au besoin. Donc, si jamais vraiment le projet Prometheus, pour une raison ou une autre, disparaissait, ben, tout ce qu'on a fait est de toute façon supporté par d'autres vendeurs, tout ce qui est exportation de métriques, etc. On essaye de travailler de manière la plus open possible pour que justement tout ça fasse grandir un certain écosystème de métriques qui va pouvoir être intéressant pour plus de gens, le plus de gens possible.
D'accord. Une des promesses de Kubernetes, c'était par exemple de se dire, bah, on s'affranchit un peu de l'endroit où on tourne les choses, et de se dire que bah, mon application, je peux la déployer aussi bien on-prem sur mon data center que dans le cloud. Sauf que on-prem et dans le cloud, il y a des chances aussi que j'ai pas forcément les mêmes outils de monitoring. Donc pour la portabilité de mon application, est-ce que les métriques de Prometheus me permettent justement de la rendre portable d'un point de vue monitoring?
Il y a des plugins pour la plupart des outils de monitoring actuels qui peuvent récupérer des données Prometheus. Donc ça, c'est déjà le cas maintenant. On remarque que les vendeurs de monitoring s'intéressent à ça, que quasiment tous les vendeurs maintenant peuvent également s'interagir avec les métriques Prometheus. C'est pas vraiment égal entre toutes les solutions de monitoring, évidemment. Donc certaines solutions de monitoring vont être plus facilement intégrables ou aller plus loin dans cette intégration, mais en général maintenant, quand on parle de métrique Prometheus, à peu près tout le monde sait en produire, en ingérer. Donc ça, c'est un point important. Et le deuxième point important, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que le projet Prometheus en lui-même, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser en dehors de Kubernetes. Moi, mon plus gros projet Prometheus actuel n'est pas du tout lié à Kubernetes. C'est une infrastructure tout ce qu'il y a de plus classique, mais l'apport des métriques et de Prometheus est vraiment très important et justement nous permet de nous affranchir des autres solutions de monitoring parce qu'on a tout ce qu'on a besoin dans Prometheus et même beaucoup plus que ce qu'on avait avec l'ancienne solution de monitoring. Donc ça, c'est un point important que les gens parfois ne se rendent pas compte que Prometheus marche très bien on-prem. Il est très facile à déployer, justement. Donc on parle ici d'un projet pour le déployer, il faut juste lancer un fichier binaire, il vient précompilé tout seul avec tout ce qu'il faut. On le lance et on a un serveur Prometheus qui fonctionne, qui gère sa base de données lui-même. Et tout cela, c'est très facile, même on-prem. Donc, pas besoin forcément d'aller dans le cloud ou d'aller dans Kubernetes pour du Prometheus. On peut l'adapter également dans notre data center. Et souvent de manière plus simple encore que d'autres solutions de monitoring parce que c'est très simple à mettre en place, à démarrer, à installer. Et au niveau maintenance, il n'y a quasiment aucune maintenance de serveur Prometheus à faire. Sauf si à un moment on fait une bêtise, qu'on commence à exposer des milliers et des milliers et des milliers de métriques dans une application, peut-être que là on devra passer 2 minutes pour supprimer ces métriques parce qu'on se rend compte que la mémoire explose. Mais sinon, la maintenance d'un Prometheus qui est entre guillemets sain, il n'y en a aucune. Il va lui-même faire le garbage collection de sa base de données, donc il va effacer les vieux items qui sont dedans pour ne garder que les plus récents, et tout ça va se faire de manière assez saine et sans interaction aucune, quoi. Donc ça, au niveau maintenance, etc., le serveur Prometheus en lui-même, très facile à maintenir. Donc, même on-prem, on peut l'utiliser, aucun souci.
Donc tu dis que l'installation de Prometheus est très simple et que c'est qu'un binaire à exécuter sur une machine. Ça, j'imagine que ça constitue une première étape. La plupart du temps, tu as toujours un peu de fine-tuning à faire au niveau d'un fichier de configuration. C'est le cas aussi là où on peut dire voilà où je veux stocker mes métriques, voilà la durée de rétention que je souhaite, ou des choses comme ça.
Alors, il faut savoir que dans la première version de Prometheus, donc enfin dans les premières versions, la version 1.0 jusqu'à 1.8, on pouvait configurer certaines options avancées de la base de données, et c'était parfois nécessaire quand on avait de gros volumes. La version 2.0 est arrivée avec une nouvelle manière de gérer la base de données locale de Prometheus, où dans cette nouvelle version, il n'y a quasiment plus aucune manière de tuner ce système de base de données. Il y a quelques options de tuning, mais c'est vraiment pas vraiment lié à la mémoire, c'est vraiment lié à la rétention des données, combien de temps je veux les garder, quel espace je veux bien qu'elles prennent, etc. On n'est plus du tout sur une problématique de gestion de mémoire, etc. Donc la version 2, là, on simplifie la configuration parce qu'on ne permet plus vraiment aux utilisateurs de se poser ce genre de questions. Parce qu'on est directement optimisé pour de grandes consommations de métriques. Le deuxième élément, c'est oui, il y a de la configuration à faire pour tout ce qui est, ben, qu'est-ce que je veux monitorer maintenant? Quel target est-ce que je vais aller récupérer? Ça, c'est la configuration qui reste dans le serveur Prometheus et également tout ce qui est les règles d'alerting et les règles, les recording rules, ce qu'on appelle ça. Donc, pouvoir faire des calculs à l'avance, de métriques directement dans le serveur. Ça, c'est des choses, oui, c'est la configuration qui reste à faire. Mais c'est de la configuration sur laquelle on est entre guillemets directement à retour, c'est-à-dire on ne chipote pas à changer des paramètres pour voir l'impact sur la mémoire. C'est vraiment je rajoute des targets pour monitorer plus, ou bien je rajoute des règles pour calculer et faire des alertes.
Et les métriques, donc, elles sont sauvegardées dans une base de données. Donc, si j'ai une base de données, j'ai un type d'enregistrement qui est particulier.
Oui, donc la manière dont Prometheus fonctionne, c'est qu'il va permettre d'écrire les données dans ce qu'on appelle un write-ahead log, qui est un répertoire sur le disque. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et ce répertoire-là, qui va vivre pendant 2-3 heures, après ça, il va être remis dans un bloc de données à côté, et qui va être, lui, immutable, et qui va permettre justement de rechercher très rapidement les métriques qui sont dedans, etc. Ce bloc de données va durer 2 heures, et puis il va être compacté avec 2 autres heures de données. Ça va faire un bloc un peu plus gros. Il va y avoir de la compaction ainsi qui peut aller jusque des blocs de plusieurs jours de long. Et ces blocs-là sont en fait la base, ce qu'on appelle la TSDB de Prometheus, et qui va donc être la manière dont Prometheus va stocker ses données. Tout se passe en interne dans le process de Prometheus lui-même, et ce sont ces blocs-là qui sont immutables, qui donnent à Prometheus ses capacités d'ingester beaucoup de métriques et de pouvoir rapidement les rechercher, et qui donne aussi une autre caractéristique à Prometheus, c'est que Prometheus, de par son modèle de blocs immutables, n'est pas une base de données, n'est pas une time series database générale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec. Il y a des règles, le format nous les impose. Prometheus est une base de données, une time series database de monitoring, c'est-à-dire c'est pour ingérer des métriques de maintenant. On peut éventuellement ingérer des métriques d'il y a 1 heure, mais on ne peut pas sortir de ce fameux wall. Et donc, ça veut dire que Prometheus, lui, est vraiment une time series database destinée au monitoring, de par justement son architecture de base de données qui lui fait que voilà, on peut rajouter des métriques à l'heure actuelle, mais les blocs anciens, eux, ils sont en général immutables, on n'y touche pas. Et c'est pour ça que c'est rapide, c'est pour ça que c'est efficace. Donc voilà un petit peu la structure de la base de données de Prometheus. Il la gère tout seul comme un grand, la plupart des gens n'ont pas vraiment un sans souci, à part lui dire voilà, tu la mets là et tu la fais durer 20 jours, 100 jours et 100 gigas.
Quand on a une base de données, on se dit on a de la data et on veut pouvoir persister un peu cette data, on veut pas risquer de la perdre. Donc quand on démarre Prometheus avec le binaire directement, ça écrit sur le disque. Voilà, quelles sont les bonnes pratiques justement quand on veut démarrer un serveur Prometheus? Alors bon, j'imagine que quand on le démarre sur un Kubernetes, on va avoir un volume qui lui va pouvoir se repositionner si jamais on a un problème sur le host. Et si on le fait en dehors de Kubernetes, alors?
Attention que Prometheus ne supporte pas n'importe quel type de file system. Donc on reçoit très régulièrement des bug reports de personnes qui ont de la corruption sur leur système NFS, par exemple, parce que nous ne supportons pas NFS, parce que Prometheus a besoin de garanties quand il écrit des données, etc. Et il y a souvent, quand on a de la corruption, en général, on va perdre 1 heure de données. Donc n'utilisez pas NFS avec Prometheus. Il faut essayer de privilégier le plus souvent possible des disques locaux. Les disques locaux vont souvent être privilégiés. Et ensuite, au niveau de la durabilité des données, la première bonne pratique, c'est d'avoir un deuxième serveur Prometheus pour faire de la haute disponibilité. Donc, au cas où il y en a un qui est down ou qui a éventuellement un problème quelconque, le deuxième va continuer à fonctionner. Ils vont faire exactement le même boulot, ils vont jamais se parler à part pour récupérer les métriques l'un de l'autre. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément pour la durabilité, c'est que avant de faire un backup de mes données Prometheus qui sont sur mon disque, c'est je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un snapshot. Donc là, Prometheus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tous les blocs, il va faire des liens durs, donc ça ne va pas prendre de l'espace disque en plus vers un directory de snapshot. Comme ils sont immutables, ben, ils vont rester là, ils vont pas prendre de place, et je peux les backuper, et quand ils sont backupés, je peux enlever ce directory de snapshot. Pourquoi est-ce qu'on fait ce directory de snapshot? Pour éviter que on fasse une compaction au milieu du backup, par exemple, et donc que le bloc disparaisse ou qu'il y en a un nouveau qui arrive. Donc là, le snapshot va vraiment figer la time series database, ça prend un quart de seconde, mais là, on peut le backuper. Ensuite, si jamais on peut aller plus loin, il y a 2 autres étapes qu'on peut faire. C'est utiliser soit la fédération pour récupérer certaines métriques business, les mettre ailleurs dans un autre serveur Prometheus, mais là, c'est pas destiné à faire ça sur tout un système Prometheus. Et Prometheus permet également d'envoyer ces métriques à un autre système avec ce qu'on appelle le remote write, qui lui va envoyer toutes les métriques qui sont actuellement écrites dans le write-ahead log, donc tout ce qu'on est en train de monitorer, va être directement envoyé vers une autre source qui va pouvoir les garder de manière plus ou moins longue. En plus de cela, il y a également des systèmes comme Thanos qui peuvent également prendre les blocs et les exporter une fois qu'ils sont écrits. Donc toutes ces options-là permettent, entre guillemets, d'extraire les données de Prometheus, leurs avantages et leurs inconvénients, donc les méthodes que j'ai présentées ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Du coup, on a une DB. Ce qu'on veut généralement quand on collecte des métriques, c'est pouvoir retrouver les métriques et en tirer des informations.
Oui, et c'est un autre élément qui fait le succès de Prometheus, c'est-à-dire que Prometheus vient avec une API et surtout PromQL, qui est un query language, un langage de query, qui prend peut-être 1 heure à comprendre. Une fois qu'on l'a compris, c'est très concis et très puissant à la fois. Donc, on sait faire énormément de choses de manière assez simple. Donc, il n'y a pas énormément de fonctions, il n'y a pas de fonctions très très compliquées. On s'en sort à quelques fonctions et on sait retirer énormément de données de nos métriques pour faire des corrélations, pour faire des calculs, etc. Et c'est très important. C'est très important pourquoi d'avoir ce langage-là? Ben parce que ce langage-là va permettre d'exprimer ses idées, de retrouver ses métriques et également de dire à tout ce qu'on monitor, ben, le pouvoir que j'ai dans PromQL, je ne dois pas refaire les mêmes calculs dans mon application. Un exemple, ben, c'est l'application ne va jamais me dire qu'elle a utilisé 5% de CPU dans les 5 dernières secondes. Elle va me dire, depuis que j'ai démarré, j'ai utilisé 200 secondes de CPU. Une seconde plus tard, je lui redemande à l'application, elle va me dire, voilà, j'ai utilisé 200,5 secondes de CPU. Et l'application ne fait pas de calcul sorcier disant, voilà, alors j'ai fait combien de CPU les 5 noms. L'application, elle, de manière directe, va parler à Prometheus. Et après ça, avec le query language, on retravaille toutes ces métriques brutes pour arriver à faire des rates, à faire des sommes, à faire des moyennes, etc.
Et toi qui es familiarisé justement avec tout ce qui est monitoring, alors il y a, j'ai eu l'habitude de voir traditionnellement que le monitoring, on va monitorer le CPU d'un serveur, la mémoire d'un serveur. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers qu'il faudrait connaître pour avoir un monitoring performant avec Prometheus?
Alors, il y a un projet qui existe et qui s'appelle les Monitoring Mixins, qui permettent de partager certaines règles d'alerting et de monitoring pour certains exporteurs. Donc, on va pouvoir utiliser pour configurer, entre guillemets, certaines alertes dans Prometheus, etc. Mais ce qui est important avant tout dans Prometheus, c'est de ne pas essayer de faire des alertes dans tous les sens, de ne pas faire des alertes qui ne nous intéresseront pas au final, et de se concentrer vraiment sur l'essentiel et sur ce qui nécessite vraiment des interventions. Donc, c'est bien beau de faire 10 000 alertes différentes pour des disques qui vont peut-être être full, pas être full, etc. Faut pas oublier de se concentrer sur les métriques business, les métriques qui apportent de la valeur. Et ensuite, on peut regarder plus au niveau technique ce qui se passe, mais faut pas se laisser impressionner parce qu'au niveau technique, on va avoir des centaines, des milliers de métriques. Au moment où on commence à utiliser Prometheus, c'est pas facile de savoir lesquelles vont nous être importantes. Et donc, il y a des méthodologies qui existe comme la méthodologie RED et USE, que je vous recommande. À mon avis, on pourra mettre les liens dans les notes du podcast, qui explique ça, mais qui permet de dire, voilà, j'ai quelque chose de nouveau à monitorer, par où je commence? Qu'est-ce que je vais regarder? Qu'est-ce qui est important? Et c'est très important parce que quand on démarre Prometheus, déjà, Prometheus lui-même va déjà présenter des centaines de métriques. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, c'est une bonne question et il faut regarder justement les bonnes pratiques qui existent et surtout éviter d'avoir une certaine alerte fatigue parce que dans Prometheus, c'est très facile de générer énormément d'alertes, bonnes ou mauvaises, mais c'est très facile de se noyer dans tout ce lot d'informations. Il faut savoir que c'est important de collecter énormément de métriques. Pourquoi? Ben parce que quand on va avoir un incident un peu touchy, on ne saura pas inventer des métriques en arrière. Donc avoir des métriques qui ne nous servent pas aujourd'hui, mais qui peut-être demain vont nous expliquer un cas de figure et savoir, voilà, c'est arrivé 5 autres fois dans le passé sans qu'on le remarque. Ou bien je vois que ça prend 20 heures d'uptime pour arriver. C'est important. C'est important d'avoir beaucoup de métriques qu'on peut explorer quand on a des incidents, etc., pour aller au fond des choses. Mais c'est pas important de, si on remarque un petit problème à gauche, à droite, de mettre une alerte dessus parce que ben, quand ça va, cette alerte-là va aller, on aura 5 autres qui vont aller et je ne saurai plus regarder. Donc c'est important de pouvoir collecter les métriques, mais pas forcément collectionner les alertes.
Tu parles du système d'alerting. Est-ce qu'il est inclus déjà dans Prometheus ou c'est un composant additionnel qu'il faut ajouter?
Alors, c'est un composant additionnel qu'il faut utiliser. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le projet en lui-même s'appelle l'Alert Manager et il est, lui, designé vraiment pour gérer les alertes d'une société au complet. Donc, lui, c'est pas comme les serveurs Prometheus où on se dit, voilà, on peut en mettre un par centre de données ou bien on peut en mettre un dans chaque cluster Kubernetes. Ici, l'Alert Manager est vraiment conçu pour pouvoir absorber les alertes de tout le monde. Ensuite, l'Alert Manager a une différence fondamentale avec Prometheus, c'est que les instances qui vont être en disponibilité vont se parler entre elles. Donc là, il va y avoir un réel cluster d'Alert Manager qui va fonctionner d'une manière que, ben, en étant connectés ensemble, on ne recevra pas 2 fois la même alerte, tandis que si on a un des deux qui ne va plus, on recevra quand même l'alerte. Donc ça, c'est l'autre point, c'est que l'Alert Manager, lui, il va être mis en cluster. Et cet Alert Manager va recevoir donc les alertes de chacun des serveurs Prometheus. Donc chacun des alert managers reçoit les alertes de chacun des Prometheus et il va agir sur ces alertes. Il va faire plusieurs choses, notamment il va les grouper. C'est-à-dire que ben, si je reçois un file system qui est plein sur 10 serveurs différents, peut-être que je ne vais recevoir qu'une seule alerte. Ou bien si j'ai tout à coup 5 services qui tombent en erreur, ben peut-être que plutôt que de recevoir 5 emails, je serais aussi bien avec un email. Donc on peut grouper des alertes selon les différents labels qu'on leur donne. Premier élément qui est important. Et le deuxième élément, c'est que cet manager va pouvoir désactiver certaines alertes. Donc on va pouvoir lui dire, voilà, maintenant on passe en maintenance. Pendant 2 heures, je n'ai plus d'alerte sur ce serveur-là. Et il peut également faire des espèces de silence automatique, c'est-à-dire que si on voit qu'un switch est down, on peut dire, voilà, si le switch est down, tu m'envoies l'alerte que le switch est down, mais ne m'envoie pas les alertes pour les 20 serveurs qui sont derrière, ça m'intéresse pas. Vu que le switch est down, c'est logique que les autres serveurs derrière soient down. Ça s'appelle l'inhibition, c'est une des autres features de l'Alert Manager. Et ensuite, lui, il va s'arranger pour que l'alerte arrive à bon port. C'est-à-dire que si on essaye de contacter un service externe, ben lui, il va envoyer l'alerte. Si elle passe, enfin, s'il est satisfait, il va plus l'envoyer. Si ça échoue, ben, le deuxième Alert Manager va réessayer. Si ça échoue, le premier va réessayer jusqu'à ce que l'alerte arrive à bon port. Donc, l'Alert Manager, lui, va insister pour vraiment vous faire parvenir l'alerte là où elle doit arriver. Et c'est une autre caractéristique de l'Alert Manager. Donc, c'est un outil qui est officiellement supporté par Prometheus, qui supporte nativement des intégrations comme les emails, Slack, etc., qui a également une interface générique en JSON pour, si vous voulez, l'étendre encore vers d'autres outils. Et tout ça, évidemment, est chapeauté par les mêmes développeurs que développeurs de Prometheus. Donc, c'est tout à fait supporté. Juste, ce sont deux binaires séparés, deux services séparés à lancer.
Du coup, si je reçois une alerte de mon alert manager pour me dire que quelque chose ne va pas, j'imagine que je vais pas aller directement avec PromQL essayer de trouver et de diagnostiquer ce qui va pas. Généralement, je vais avoir un peu travaillé en amont et avoir fait des dashboards qui vont pouvoir m'aider quand je vais devoir diagnostiquer un problème. Alors, si on parle un peu de cet aspect de création de dashboard, alors est-ce que c'est aussi quelque chose qui est fait directement dans Prometheus? Est-ce que c'est un produit externe qui le fait?
Donc, dès la création de Prometheus, il y avait en effet un outil de dashboarding dans Prometheus à côté qui s'appelait PromDash. Très vite, on s'est rendu compte, bah, les dashboards, en fait, c'est très compliqué parce que ça peut représenter n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc, la solution qui s'est imposée, c'était Grafana. Et donc, maintenant, le projet Prometheus recommande d'utiliser Grafana pour créer les dashboards. Parce que Grafana va prendre en compte toute cette partie entre guillemets UI, expérience utilisateur, qu'on a envie quand on regarde un dashboard. Donc, un dashboard doit nous raconter une histoire, on doit pouvoir lire un dashboard comme on lit un livre, et voilà la situation actuelle. En quelques secondes, on peut scanner une situation. Pourquoi? Parce que ben, le dashboard, il va comprendre les bonnes unités, il va comprendre des couleurs qui vont être agréables, on va pouvoir mettre certaines lignes. En rouge, en vert, parce que ça veut dire quelque chose qui va permettre justement de rapidement comprendre ce qui se passe. Donc, le dashboarding, c'est en dehors de Prometheus dans le projet Grafana que ça se passe. Et d'ailleurs, le projet Grafana lui-même, l'entreprise qui est derrière Grafana emploie des employés qui travaillent également sur Prometheus. Donc, il y a entre guillemets une très bonne entente entre d'un côté les développeurs Grafana et les développeurs Prometheus. Donc, Grafana est aussi un outil qui est open source. Et qui justement permet à Prometheus de déléguer cette partie entre guillemets de dashboarding vers une solution qui est beaucoup plus complète et professionnelle. Donc l'équipe de Prometheus n'aura jamais le temps de faire une solution qui soit aussi bien faite que la solution qui est présentée par Grafana. À noter également un autre point positif de Grafana, c'est que Grafana lui va permettre de se connecter également à d'autres sources de monitoring. Donc on parlait de gens qui ont d'autres monitoring. C'est vrai qu'il y a des gens qui se disent bon Prometheus parce qu'ils ne savent pas qu'il y a de l'alerting, ou parce qu'ils n'ont pas confiance, ou parce qu'ils ont d'autres outils, ils se disent, on va prendre Prometheus, comme ça on aura les graphes de notre bande passante, mais on va quand même utiliser un autre outil de monitoring pour les vraies alertes, quoi. Donc on va faire, entre guillemets, la partie métrique de Prometheus sans les alertes, et on va garder l'autre. Et là, Grafana, en général, peut se connecter aux deux, mettre les deux l'un à côté de l'autre. Donc Grafana n'est pas uniquement lié à Prometheus, mais à plein de data sources, de sources de données différentes, et permet vraiment de faire tout un travail. Et entre guillemets, de réutiliser ce travail entre toutes les sources de données qu'on aurait.
Voilà, il a des data sources qui lui permettent de comprendre nativement PromQL, c'est bien ça?
Alors, il a une data source Prometheus qui permet de faire du PromQL. Il a une data source Elasticsearch. Il a une data source qui permet donc pour chaque outil, pour plein d'outils de monitoring en tout cas, de lancer des queries. Mais c'est vrai que le support de PromQL dans Grafana est assez bon. Donc, on a de l'autocomplétion, on a de la complétion sur les noms métriques. De la complétion sur les durées, etc. Donc, on a une grande force de complétion dans Gravana, qu'on n'a même pas dans Prometheus en fait. Donc Prometheus, entre guillemets, pour la partie PromQL pour le moment, et même entre guillemets, Grafana est meilleur que l'interface de Prometheus, vu que lui il va vraiment vous aider à écrire votre query en long, en large, quoi. De même qu'il peut également vous conseiller s'il voit que vous avez une métrique qui nécessiterait d'avoir une fonction rate autour pour, parce qu'on voit qu'elle augmente tout le temps, ben, il va vous le proposer également. Donc Grafana, c'est vraiment le point d'orgue de l'expérience utilisateur, comment rendre ça beau, agréable à utiliser pour les utilisateurs. Et en effet, dans le cadre d'un incident, c'est important de pouvoir avoir les bons dashboards Grafana qui vont pour pouvoir rapidement aller voir la solution, le problème qu'on a directement avec Grafana.
On parlait justement de PromQL, j'ai une question comme ça, c'est tu dis qu'il y a un outil déjà dans Prometheus pour tester ces requêtes. Alors est-ce que c'est un outil graphique, est-ce que c'est un outil en ligne de commande? Comment on utilise PromQL?
Alors, il y a un outil en ligne de commande qui est fourni par Prometheus, mais très clairement, ce que les gens utilisent, c'est l'interface web de Prometheus, qui est une simple console qui permet de lancer juste des queries, d'analyser les réponses des queries et de faire des petits graphes. C'est loin d'être aussi complet que Grafana, mais ça permet de dépanner, de faire des queries ad hoc, etc. Donc, on travaille quand même très souvent dedans quand on fait du Prometheus. Et d'ailleurs, cette UI est en train d'être réécrite et quasiment réécrite maintenant complètement en React pour être un peu plus moderne, un peu plus réactive. Et on peut espérer y voir également débarquer plus d'autocomplétion, etc. Mais c'est vrai que c'est une interface vraiment, entre guillemets, de travail. C'est pas l'interface qu'on va montrer à son manager, à son équipe en disant, hey, regarde. Non. La partie vraiment, visualisation est vraiment déléguée à Grafana. On est vraiment sur un outil de travail dans l'interface de Prometheus, dans un outil pour voir également la configuration, ce qu'on est en train de monitorer, ce qui est up, ce qui est down. Ça, c'est vraiment le job de l'interface Prometheus, c'est le travail des techniciens. C'est pas le travail du business, c'est pas le travail, c'est vraiment une interface pour faire des calculs bruts, directs et sans fioritures, quoi.
Quand tu as parlé de la simplicité d'installation et également la simplicité de maintenance d'un serveur Prometheus, on peut se dire que finalement on peut installer plein de Prometheus pour tout un tas de choses. Donc de ton point de vue, la bonne pratique, c'est d'avoir un gros système Prometheus entretenu par une équipe de monitoring, ou alors que on soit plus granulaire, que chaque équipe puisse avoir son propre Prometheus. Équipe de développement, équipe infra, même chaque projet de développement pourrait avoir son propre Prometheus.
Alors oui, chacun pourrait avoir son propre Prometheus. Maintenant, il est quand même préférable que ce soit d'avoir un Prometheus qui soit hautement disponible. Donc plutôt que d'avoir deux instances qui font des choses différentes, peut-être avoir deux instances qui vont faire le même travail et donc les centraliser entre les équipes. Il faut savoir également que bien souvent, un incident dans une application, ben on va devoir rechercher des métriques à gauche à droite pour pouvoir les reconstituer. Donc si on a un seul Prometheus, qu'on peut réutiliser ce Prometheus entre plusieurs équipes, qu'elles travaillent ensemble, entre guillemets, à ce niveau-là, on va pouvoir faire des queries plus facilement entre ces différentes équipes et corréler les différentes métriques plus facilement. Donc ça, c'est un aspect de pouvoir se dire, voilà, on fait manger beaucoup de métriques à Prometheus et puis comme ça, on peut regarder en même temps le réseau et l'application l'un à côté de l'autre assez facilement. Donc ça, c'est plutôt un point qui est en faveur d'avoir des Prometheus, entre guillemets, un peu plus gros. Et après ça, évidemment, si les développeurs ne doivent pas gérer d'instance Prometheus par équipe, ça leur permet également d'investir dans les métriques Prometheus de leur application. Ce qui n'est pas non plus quelque chose qui est négatif, donc de pouvoir mettre dans les mains des développeurs, voilà, vous êtes responsable de vos métriques, on offre le serveur, voilà, c'est pas très compliqué à maintenir ni à offrir. Et comme bah, ça dépendrait de la taille des équipes et du nombre de métriques qu'on a, mais en général, on n'a pas trop de serveurs Prometheus, ça dépendra plus de la topologie réseau, de la topologie technique que vraiment du nombre d'équipes qu'on va avoir, quoi.
Du coup, ça m'évoque aussi la problématique du multi-tenancy. Donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter de donner des métriques à une équipe qui serait pas la sienne? Parce que ça pose un problème de sécurité de se dire, l'équipe A expose ses métriques et l'équipe B peut voir ses métriques et on souhaiterait, pouvoir les séparer l'un l'autre.
Alors dans ce cas-là, la solution la plus facile, ça va être d'avoir en effet deux serveurs Prometheus différents. Donc nous échangeons certaines métriques avec des clients, ben nous avons un petit serveur Prometheus qui va collecter les quelques centaines de métriques qu'on veut bien échanger en utilisant la fédération, et on sait qu'il n'y aura aucune métrique qui va filtrer. Une autre solution, c'est de forcer les équipes à passer par un proxy intermédiaire. Donc, il y a certains proxys qui permettent de forcer, quand on fait des requêtes, certains labels. Donc, c'est aussi une autre possibilité qu'on peut avoir. Mais il faut faire très attention que c'est beaucoup plus simple, par exemple, peut-être de faire plusieurs serveurs Prometheus que de vouloir commencer à mettre des proxys intermédiaires, etc. Maintenant, il faut savoir que dans le modèle de Prometheus même, il n'est pas considéré que les métriques sont des secrets à proprement parler. Donc, les métriques, voilà, toutes les métriques sont a priori accessibles à tout le monde dans un serveur Prometheus. Mais bien sûr, c'est vrai que parfois, on ne souhaite pas partager toute sa popote interne avec le reste du monde. Et donc, il y a plusieurs mécanismes. J'ai évoqué la fédération vers un petit serveur Prometheus. Maintenant, si les équipes entre elles ne se parlent pas et ne veulent pas avoir les métriques les uns des autres, peut-être que là, il y a un autre problème dans l'organisation qu'il faut régler. Il faut peut-être faire évoluer les mentalités et la culture de l'organisation elle-même, quoi.
Ok. Donc, t'as dit qu'il fallait faire manger un maximum de métriques à Prometheus, que c'était une bonne chose qu'on collecte un maximum de requêtes, d'informations. Alors, du coup, est-ce que justement, faut se poser la problématique de sizer, donc donner la bonne taille à l'instance de Prometheus. Donc, par défaut, quel serait le conseil que tu aurais à donner pour qu'on puisse se rendre compte de, voilà, on veut faire notre première install de Prometheus. Comment on calcule la taille du serveur qu'il faut pour avoir cette instance?
Alors, ça va dépendre évidemment de ce qu'on appelle par commencer par utiliser Prometheus. Bon, il faut savoir que Prometheus, lui, il est entre guillemets très bête à ce niveau-là. Il va prendre la mémoire dont il a besoin. S'il n'y en a pas assez, voilà, il va se faire tuer par le kernel ou bien il va crasher, voilà. Mais donc Prometheus, on ne sait pas lui dire à l'avance, ne prend que telle ou telle partie de données. Ce qu'on peut regarder, c'est jouer sur la rétention et regarder également le nombre de métriques qu'on expose. Donc, je voudrais nuancer un peu ce que j'ai dit. Oui, c'est bien de collecter beaucoup de métriques dans Prometheus. Il faut pas commencer à en collecter 20 000 par application, quoi. Donc, il y a ce qu'on appelle la cardinalité qui influence sur l'utilisation de mémoire de Prometheus, c'est le nombre de métriques qui sont actuellement dans la mémoire du serveur. Eh ben, cette cardinalité-là, on va pas mettre des IP adresses, des adresses email dans les métriques, parce que là, le serveur va être explosé. Sinon, ce que nous faisons nous pour nos Prometheus qui sont en haute disponibilité, c'est qu'on a deux tailles de serveurs différentes. Donc, on va avoir un serveur qui va, par exemple, avoir 12 gigas de mémoire et le deuxième va en avoir 16. C'est-à-dire que si tout à coup une application augmente la mémoire de mon serveur Prometheus sans que je le sache ou bien sans que je fasse trop attention, le premier va crasher bien avant le deuxième. Donc, je vais avoir un haut trafic mémoire sur le premier et je vais être alerté disant, voilà, le Prometheus, il est down. Et puis là, je vois, oh, il redémarre plus, il y a quelque chose de mauvais dans sa mémoire. Mais pendant ce temps-là, le deuxième, qui est sizé différemment, va encore marcher peut-être encore un jour ou deux de plus, quoi. Donc j'ai du temps pour réagir. Donc ça, c'est la manière dont nous approchons la chose. Pour le moment, c'est pas encore arrivé qu'on ait dû le faire, qu'on ait dû augmenter cette première limite, mais je vais également donc te donner un lien où les gens peuvent calculer sur une page assez technique, estimer combien de mémoire leur serveur Prometheus va utiliser. Mais en général, dans des setups de petites PME, je sais pas comment on dit ça en France, une PME,
PME, oui.
et dans les petites PME. En général, un serveur Prometheus va pas vous prendre 40 gigas de mémoire, quoi. Donc, c'est pour le setup à 100, 200 serveurs, on va être à quoi? Peut-être 12-15 gigas de mémoire pour un serveur Prometheus qui va garder les données quand même sur plusieurs mois.
De ton point de vue, à quel type de monitoring on pourrait considérer que Prometheus est plus adapté? Est-ce qu'il y a des cas d'usage où Prometheus n'est pas adapté?
Alors, pour ce qui est monitoring, on le voit déployé dans du cloud, dans du on-prem, dans de l'IoT même. Donc, il y a des passerelles avec l'IoT. Donc, c'est utilisé par des très grosses entreprises, par des petites entreprises, par des hobbyistes. Donc, beaucoup de gens ont un petit Prometheus dans un Raspberry Pi qui va monitorer la température de leur chambre à coucher. Donc, Prometheus, pour ce qui est monitoring, il n'y a aucun souci. Il va être adapté à peu près toutes les situations. Maintenant, si on veut utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, Prometheus comme une base une time series database classique, directement, ça va marcher. Si on veut par exemple encoder des prédictions dans le futur, encoder des modèles météo à l'avance, etc., là, il va falloir aller vers une base de données plus généraliste. On va pouvoir mettre des métriques dans le futur, dans le passé, qui va peut-être être plus gourmand dans mémoire qu'un Prometheus le serait. Mais voilà, Prometheus a ses limitations. Ses limitations, c'est quoi? On fait du monitoring avec. On ne fait pas des prédictions ou venir faire des choses avec 5 jours de retard, etc. Ça, c'est vraiment la grosse limite de Prometheus. C'est, il a été conçu pour un objectif Et en bon, entre guillemets, mode Unix, il fait cet objectif correctement et il va pas se transformer en une time series database de manière générique, quoi.
Du coup, bah, ma dernière question, ça va porter un peu là-dessus, parce que si demain mon outil de monitoring, c'est Prometheus, et que je veux utiliser ces métriques-là, parce que c'est évident que si je tire mes métriques de mon infrastructure, c'est ces métriques-là que je vais vouloir utiliser pour faire du capacity planning. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller justement de brancher derrière Prometheus peut-être pour avoir cette visibilité, pouvoir se permettre de faire du capacity planning avec les métriques des Prometheus.
Alors, pour faire le capacity planning, il y a deux éléments. Soit vous prenez un petit Prometheus qui va avoir une rétention plus grande et faire ce qu'on appelle de la fédération pour juste les métriques qui sont utiles pour le capacity planning. Donc là, on va choisir les métriques par nom, par job, etc. et les garder très longtemps. Donc là, on peut récupérer quelques dizaines de milliers de métriques très longtemps en utilisant très peu d'espace disque. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est d'aller vers un système comme Thanos, Cortex, Influx qui permet d'en stocker les métriques qu'on utilise sur du long terme, avec justement les mécaniques de remote write qui permettent en plus de centraliser plusieurs instances Prometheus, plusieurs métriques en une aussi. Donc ça, c'est deux approches qu'on peut utiliser pour faire ce qui est le capacity planning. Maintenant, très honnêtement, donc nous gardons nous en interne 100 jours de données Prometheus, ce qui nous permet quand même de répondre à pas mal des exigences, sauf pour un business en particulier où là en fait on a une application qui tourne en gros une fois par mois, donc elle est utilisée une fois par mois, ça dure 3 jours. Et là, ce qu'on a fait, on a juste mis une instance qu'on utilise dédiée à ce projet-là et on lui dit, voilà, maintenant tu me gardes 1 an de données, 2 ans de données. Et donc là, ce petit serveur Prometheus va me garder 2 ans de données. Et là, je peux aller revoir, voilà, les 14, 24 derniers mois, ce qui s'est passé dans ce projet-là. Donc ça dépendra de ce que vous souhaitez faire avec votre Prometheus. Le capacity planning, certains ont besoin de voir les métriques sur 2, 3 ans. Nous, on a assez avec 100 jours pour savoir, voilà, le business, il tourne assez que pour, en 100 jours, avoir des tendances et sans avoir la complexité d'un deuxième service de remote write à côté, parce que c'est des complexités opérationnelles, etc., à mettre en place. Faut pas l'oublier que tout ça n'est pas, même si c'est gratuit, open source, tout ce qu'on veut, tout ça n'est pas gratuit pour les êtres humains qui travaillent dessus. Donc, si on peut s'épargner ce setup en plus, et nous, avec 100 jours, on a remarqué, ça nous prend juste un disque de 200-300 gigas, on est très content avec ça et on vit avec, quoi.
Ok. Julien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
De rien.
Et puis, on se reverra avec plaisir.
Oui, ça va. Bonne soirée à tous.
Vous pouvez retrouver Julien sur Twitter, @roi de la pluie tout attaché, et Prometheus sur prometheus.io. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, et surtout, parlez-en autour de vous. À bientôt!